Cause en sens.
J'ai été condamnée à 12 ans pour tentative de meurtre et tentative d'assassinat.
J'ai juste envie de vivre.
Donc c'est un véritable enfermement physique qui induit de l'enfermement mental.
Et bientôt, je vais affronter le monde.
À ce moment-là, qu'elles rendent compte que tout se referme derrière, donc elles vont être là pour un petit moment, quoi.
Salut, je m'appelle Aude, je suis artiste, féministe et je vis à Genève. Il y a un an, j'ai rencontré Kat.
Salut, je m'appelle Kat, je suis aussi féministe et moi, j'ai été agente de détention pendant 4 ans.
Moi, je connais rien à la prison. Je suis ce qu'on appelle une bobo de gauche, anticarcérale, pleine de préjugés. Au fil de nos discussions avec Kat, j'ai plongé dans un monde invisible, caché. Un monde du dedans. Un monde qui existait derrière des portes blindées, des grilles. Une fourmilière, avec ses propres codes, mais aussi empreint des mêmes biais et stéréotypes que le monde du dehors.
Aude et moi avons décidé de mêler nos univers artistiques et professionnels. C'est comme ça qu'est né Gonze en Zonze.
Gonze en Zonze donne la parole à des femmes incarcérées, libérées ou qui travaillent en prison. Gonze en Zonze, c'est un trou de souris dans une porte blindée. C'est chercher à comprendre ce qu'il se passe de l'autre côté du mur.
Bon, on se dit tu ou on se dit vous?
Pour ce premier épisode, nous avons rencontré Marina, une ancienne détenue.
Donc, je suis Marina Jacques, je suis née le 21 mai 1961 à Lausanne. J'ai eu une vie professionnelle assez variée, une vingtaine d'années cumulées dans les métiers de la restauration. Une dizaine d'années dans le recrutement et placement de personnel en entreprise, puis une reconversion dans le travail social aux alentours de 40 ans, et puis ensuite 5 années de travail de rue auprès de la population toxicomane et marginalisée de la place de la Riponne à Lausanne. Et puis ensuite, j'ai été récupérée par la police pour faire du travail en lien avec l'office des poursuites, c'est-à-dire d'aller visiter les gens qui ne répondaient pas à leur convocation. Pour mes compétences sociales, en fait, la police m'a fait cet appel du pied. Et puis voilà, à 50 ans, une grosse casse, burn-out, dépression, colère, crise de nerfs et beaucoup d'infractions à toutes sortes de règlements, ce qui m'a donc amenée en prison en 2016 pendant 9 mois.
Marina a fait 2 séjours en prison. Le premier en 1981, à l'âge de 20 ans, et le second 35 ans plus tard, en 2016. De son expérience, elle en écrira un livre. Dedans, dehors, réflexion d'une femme en cage.
C'est toute ma construction de genre qui a été une cage pour moi durant toute ma vie, puisque j'ai cru que je devais me prêter à un exercice. En fait, personne ne m'a rien demandé, mais j'ai toujours pensé qu'il fallait que, voilà, que je me conforme, que je sois... Moi, j'étais une adolescente assez rebelle parce que j'étais mal dans ma peau. Et puis, à un moment donné, la société, je veux dire mes proches, mais aussi ma première faillite avec mon premier restaurant et les remontrances qui m'ont été faites par le tribunal de liquidation, enfin bref, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que je joue ce jeu de société pour qu'on me foute la paix. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est pour ça que ça a explosé à mes 50 ans, c'est que je me suis enfermée dans un rôle qui, en fait, n'était pas du tout le mien. Je me suis mise dans un costume, dans une cage, voilà. Et en fait, en prison, je ne me suis jamais sentie aussi enfermée que je l'ai été, en fait, pendant quelques années de ma vie, à jouer un rôle qui n'était pas du tout fait pour moi.
Le livre qu'elle a écrit est à son image, sans filtre, rempli de paradoxes, de questions, de doutes. À l'écrit, elle cite Nietzsche, Françoise Sagan, Jacques Brel, Bob Dylan ou encore Barbara.
Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin, Ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin.
Et puis son récit est truffé de néologismes et d'humour. Elle parle d'amour saphique avec passion et décontraction dans son livre. Nous avons beaucoup ri, de rire empreint de complicité, de charme et d'un piquant humour plein de sous-entendus, plein de non-dits. J'en étais convaincue. Oh, Dieu que je n'aime pas ce mot. Con et vaincu collés ensemble. Ce n'est pas encourageant. Et j'étais convaincue que le trouble était réciproque. À l'oral, on la sent plus réservée, mais non moins vive et à l'esprit affûté.
Moi, je suis pas féministe du tout, du tout, du tout.
Marina, elle est comme ça. Elle se raconte sans chichi, sans détour.
Alors, évidemment, des connards, j'en ai croisé, puis des connards, j'en aurais croisé même si j'étais pas ce que je suis.
Elle se raconte comme on parlerait d'une bonne copine, de sa pote à qui la vie ne fait pas de cadeaux, mais qui s'en sort et qui va de l'avant.
Mon problème à moi, ça a toujours été, toujours, oui, mais c'est pas que celui-ci de problème. Enfin bref, un des problèmes de ma vie, c'est de choisir. J'ai de la peine à choisir. En prison, il n'y a pas de choix. Donc la vie, elle est facile. Les horaires sont imposés. Les repas sont imposés, les promenades sont imposées, tout est imposé, il n'y a plus besoin de se poser de questions. Et donc, dès lors, pour moi, ça devenait très facile à l'intérieur. Moi, je me suis retrouvée en prison, je n'ai pas eu envie de pleurer sur mon sort, je savais très bien ce que j'y faisais et pourquoi j'y étais, je sais ce que j'y fais, et puis qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, en fait, voilà.
Nous avons tenté de saisir ce qui fait la complexité d'une incarcération féminine, mais aussi ce qui a permis à Marina de tenir, les liens qu'elle a créés et les problèmes qu'elle a pu rencontrer en tant que femme incarcérée. On vous livre aujourd'hui la substantifique moelle de cette rencontre délicate et étonnante.
Ça peut arriver à tout le monde, mais il faut effectivement qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Tu sais, c'est comme l'alignement des planètes. Il faut à un moment donné qu'il y ait des conjonctions, en effet. Mais ça peut arriver à tout le monde, oui. Et ça n'a rien à voir avec la classe sociale ou socio-économique, de rien du tout. Moi, j'ai rencontré des gens de toutes sortes, majoritairement... C'est marrant parce qu'à 20 ans, quand j'ai fait mon premier séjour carcéral, la majorité des femmes étaient des prostituées. Et puis là, en 2016, la majorité des femmes étaient des toxicomanes. C'est fou, il y a quand même quelque chose qui s'est déplacé. Mais nonobstant ça, ça peut toucher n'importe qui, vraiment. Il suffit d'une... Moi, la pote dont je te parlais tantôt, qui est sortie en avril, celle que je nomme Conchita dans mon livre, elle, pas de problème de toxicomanie, pas d'infraction à la loi, divorce malheureux, mari qui paye pas les pensions, donc elle a triché un petit peu avec le fisc, avec ses déclarations pour essayer de s'en sortir financièrement, et puis voilà, hop. Une femme parfaitement insérée, qui avait un travail, qui a d'ailleurs toujours un travail maintenant, qui s'est retrouvée vraiment dans une situation de misère. Puis on est fragilisé quand on est en plus triste, parce que évidemment, quand il y a un divorce, il y a aussi une histoire qui se termine, il y a quelque chose d'affectif et qui touche à la sensibilité. Alors, en plus, s'il faut se battre dans ces conditions contre des problèmes financiers, contre des problèmes d'éducation des enfants, etc., et ben, à un moment donné, je veux dire, il y a un épuisement, c'est une espèce d'effondrement psychologique et ça, ça peut toucher n'importe qui. C'est là où la prison, par contre, je la trouve tout à fait détestable. Parce que il y a quand... Ok, moi, j'ai fait plein de conneries, consciemment, sciemment, et j'ai été en prison, et je suis OK avec ça. Mais quand tu vis comme ça un effondrement psychologique, puis tu tentes un truc un peu désespéré pour glaner 200-300 balles de plus par mois, la prison, c'est pas une réponse. Ça devrait pas exister que des gens se trouvent dans des situations pareilles. Moi, j'ai vu rentrer une femme de 75 ans en prison quand j'y étais. Elle était malade en plus. Et parce qu'elle n'avait pas payé des amendes, mais je ne sais pas quel genre d'amende. Enfin bref, elle a dû venir faire une semaine de prison. Mais il faut quand même m'expliquer à quoi ça sert de mettre une femme de 75 ans malade en prison pour une semaine pour des histoires d'amende. Tu vas piquer dans un magasin parce que tu as quand même envie de bouffer autre chose que des pâtes. Et puis l'engrenage, il est là. Tellement, c'est tellement vite fait de basculer. Bien sûr que les femmes sont souvent plus touchées parce que souvent elles n'ont pas de formation professionnelle et puis elles se retrouvent voilà, divorcées avec, dans une situation de merde. Ou alors simplement parce que c'est plus compliqué parfois de trouver du travail parce qu'elles ont des enfants et c'est compliqué. Ou souvent il y a des problèmes de produits, de stupéfiants, enfin bref, il y a toutes sortes de raisons qui font que les femmes sont plus vulnérables, alors ça c'est sûr.
Les femmes vivent souvent une double, voire une triple peine lorsqu'elles sont incarcérées. Hormis ces quelques exemples de précarité, qui découlent directement du système patriarcal et expliquent la rapidité avec laquelle les femmes peuvent tomber, par nécessité, dans l'illégalité, il faut également prendre en compte les conséquences émotionnelles et psychologiques de ces incarcérations.
En prison, les femmes bénéficient souvent de moins de solidarité que les hommes. Or, à l'inverse, ce sont elles qui soutiennent les hommes dans les épreuves qu'ils traversent, comme la prison. Certaines détenues, compte tenu de l'éloignement des centres de détention dédiés aux femmes, reçoivent beaucoup moins de visites que leurs homologues masculins. Certains chiffres indiquent même qu'au-delà de 2 ans d'incarcération, les femmes ne reçoivent plus de visites du tout. Les conjointes sont d'ailleurs généralement plus fidèles lorsque leur mari est en prison, alors qu'à l'inverse, eux refont leur vie.
Mais toutes les femmes ne sont pas en couple, et celles qui le sont, pas forcément dans des couples hétérosexuels. Même si je n'ai jamais poussé les portes d'une prison, et que le seul imaginaire carcéral que j'ai provient de films ou de séries télé, j'ai envie de m'imaginer un endroit où les femmes seraient solidaires, où elles se tiendraient les coudes. Une partie de moi aimerait y croire. Croire qu'à l'intérieur des murs, il y a une micro-société d'Amazon, des Amazones modernes qui s'organisent, qui montent des startups, qui vendent leurs culottes sur Internet.
C'est pas du tout ça. La prison, c'est millimétré, réglementé. C'est pas Netflix.
Une journée type, alors là, je te parle de la mienne, de mon expérience, hein. Peut-être que les autres ont vécu ça différemment. Ben, pour moi, c'était réveil à 6 heures. Les ateliers commençaient à 7h40. Alors pourquoi 40? Ça, c'est des grandes questions existentielles. Pourquoi pas 30? Ou pourquoi pas 7? Ou pourquoi pas 8? Non, 7h40. Voilà. Moi, je cherche toujours le sens des choses et là, j'ai toujours pas trouvé. Mais c'est pas grave. Donc, je me réveille à 6 heures, petit déjeune. Et puis, je me mets à mon pupitre et j'écris pendant 1 heure. Voilà, ça, c'était ma condition. Tous les jours, c'était ma contrainte perso à moi. 7h30, je me prépare, je me change, je mets ma tenue de cuisine. Je vais à la cuisine, aux ateliers, jusqu'à 11h. 11h, c'est l'heure des repas. Et moi, je m'étais inscrite pour faire le service. Donc, je faisais en plus le service de 11h à 11h30. 11h30, retour en cellule jusqu'à midi et demi. Midi et demi, promenade jusqu'à 1h30. Tu peux ne pas aller en promenade, mais du coup, tu es bouclée dans ta cellule. Ou alors, tu vas en promenade et tu vas avec les autres filles. Et là, on est tous secteurs confondus, c'est-à-dire les longues peines, les courtes peines, les mamans, bref, tout le monde. Il y a 3 brins d'herbe qui se courent après au printemps. Les petites fleurs, elles ont le look prison. C'est-à-dire que c'est assez moche, mais ça fait rien, c'est du vert. Tu peux tourner en rond si tu veux. Il y a des sièges, tu peux t'asseoir. Il y a des filles qui jouent aux cartes. Il y a des raquettes de badminton. Il y a un ballon de foot. Enfin, tu peux. C'est un moment pour se défouler un peu, pour être dehors, quoi, tout simplement. 13h30, on retourne aux ateliers et on y est jusqu'à 16h. Après, retour en cellule, 17h, souper. Donc, je refais le service jusqu'à 17h30. Après, à 17h30, je descends dans le secteur. Donc, les cellules sont ouvertes dans le secteur jusqu'à 19h30 le week-end et puis 20h30 la semaine. Voilà. Puis après, tu es bouclé en cellule. Si tu veux la télé, contrairement à la légende populaire qui pense que la télé nous est offerte, pas du tout, alors il faut s'inscrire. Et puis après, c'est pris sur ton pécule de travail. Puis si tu n'as pas de travail, si tu ne veux pas travailler, il faut que tu aies de l'argent sur ton compte. Et puis voilà, tu as le droit à la télé. Et puis, extinction des feux, en fait, tu as le droit à ta petite lampe de chevet toute la nuit si tu veux, mais les grandes lumières, les grands feux sont éteints à 22h.
Ça va être tout noir. Ça va être tout noir.
Tu vois, c'est assez banal une journée en prison. Ce que tu fais de tes heures, ça dépend que de toi finalement. Si tu veux lire, écrire, jouer aux cartes.
Ou vendre tes culottes.
Je commence un business de vente de culottes puantes à des pervers.
Personne ne fait ça, Aude.
Dans le bâtiment où j'étais, c'était toutes les courtes peines, donc c'est jusqu'à 6 mois. Il se trouve que moi, j'étais en courte peine parce qu'au départ, j'étais condamnée à 6 mois. Mais après, juste avant de rentrer en prison, j'avais encore fait 2-3 petites frasques. Et donc, on m'a collé un temps de plus. Donc, j'ai fait 9 mois, mais on m'a laissé quand même dans les courtes peines. Premier étage, il y avait les longues peines. Donc, c'est des peines qui partent depuis 6 mois jusqu'à maximum. Hein. Il y a pas mal de criminels, mais des vrais. Hein. Au deuxième étage, il y a alors les appartements pour les mamans, et puis tout ce qui est secteur médical, psychiatrie, physiothérapie. Puis encore au rez-de-chaussée, il y a les salles pour les entretiens avec les avocats. On a une salle de gym où on peut aller 2 soirs par semaine. Il y a des engins, il y a tout ce qu'il faut. Il y a encore la bibliothèque une fois par semaine, l'intendance, donc le ménage. Et puis pour les hommes, il y a la menuiserie. Alors les femmes peuvent faire une demande, puis alors ça dépend après si c'est accepté ou pas. Donc la menuiserie, c'est des ateliers où ils travaillent pour des sociétés à l'extérieur. Voilà, je veux dire, non, c'est assez bien organisé. Pour celui qui veut vraiment quand même passer un séjour pas trop désagréable, il y a de quoi faire.
On n'est pas bien, paisible, à la fraîche.
Il y a une hiérarchie, mais pas tout le monde la respecte. Les toutes jeunes femmes toxico, elles en ont rien à battre, vraiment. Même elles sont plutôt dans la provoque. Il y a quand même une espèce de... Je ne sais pas si c'est du respect ou de la fascination par rapport à certaines criminelles. Moi, j'ai rencontré une femme qui était là. Bon, elle était complètement perchée parce qu'elle était sous neuroleptique. Elle avait dégommé son mari sans un coup de couteau. Hein. Pas 100 ni 99, 101. Quand même, hein, tu t'imagines le nombre de fois qu'il faut frapper. Enfin, 101, voilà. Cette femme était d'une gentillesse, d'une douceur. Bon, alors d'accord, bien pétée au neuroleptique, mais ça fait rien. C'est une femme qui, je pense, elle a eu un moment de folie parce que son mari la battait, la violait, etc. Là, je fais appel à la féministe. Qu'à un moment donné, elle n'a pas eu d'autre choix, c'était sa survie. Et puis, pour asséner quand même 100 de coups de couteau, il faut être complètement déconnecté de soi-même, je pense. Puis, on avait aussi une chef de gang. Ils étaient un couple qui était chef. Lui, c'était donc le chef suprême, mais il s'est fait dégommer par la police pendant un rattrapage. Et puis, elle était là, et c'est elle qui m'a pourri la vie en cuisine. Alors, elle, c'était une vraie chef de gang. Il fallait pas lui chier dans les bottes parce que elle pouvait être vraiment, vraiment mauvaise. Je me rappelle, elle a eu son procès pendant que j'étais incarcérée. C'était comme à la télé, hein. Hélicoptère, escouade de la police, tu sais, tout habillé en noir, avec des armes, des boucliers. C'était complètement hallucinant. Et ça, c'était une vraie méchante. Elle m'a détestée d'entrée parce qu'on avait le même prénom, que ça, elle ne supportait pas. Mais après, ça a bien terminé, hein, ça s'est bien terminé. Mais au départ, elle m'a bien pourri la vie. Je ne sais pas, elle a dû sentir quelque chose, je ne sais pas, qu'elle ne pourrait pas faire de moi ce qu'elle voulait parce qu'elle arrivait... Elle avait quand même sa petite cour, hein, tu sais, je veux dire... C'est fou, les meneuses en prison, elles ont vraiment tout le temps besoin d'avoir des gens qui les flattent, qui les rassurent. Tu sais, une cour. C'est assez comique et pathétique, je trouve, mais ma foi, c'est comme ça. Mais c'est vrai que les toutes jeunes délinquantes, elles en avaient vraiment rien à foutre.
Pour la sororité, je repasserai. Mais j'ai quand même bien aimé la partie avec l'hélicoptère.
Oui, mais c'est rare.
C'est pas parce qu'on est co-détenu, qu'on a des cellules côte à côte ou qu'on partage une cellule commune qu'on est forcément censé s'aimer. Hein. On est condamné à s'entendre parce qu'on n'a pas le choix, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est copain avec tout le monde. Hein. Moi, j'ai été vraiment par contre étonnée de la gentillesse et de la bienveillance des agents que j'ai pu croiser, hommes, femmes. Alors après, il y a des personnalités, hein, on n'attend pas quelque chose de particulier d'un agent de détention. Mais j'ai été extrêmement agréablement surprise en bien de la bienveillance de ces personnes. Ensuite de ça, en prison, j'ai jamais remarqué de sexisme de la part des gardiens, d'aucune part. Alors, des maladresses, oui, mais des maladresses, je pense à mon chef de cuisine, là, par exemple, qui était extrêmement trivial et qui pouvait pas s'empêcher de faire du rentre-dedans aux filles, mais de façon assez maladroite. J'ai jamais remarqué quelque chose qui venait vraiment d'une pensée sexiste. Encore une fois, des maladresses, oui, mais des maladresses, je crois qu'on en commet à peu près tous dans notre façon de communiquer. Après, les filles qui minaudent, bien sûr, il y en a des qui espèrent toujours, ben, elles jouent beaucoup de leur féminité, parce qu'il y en a des qui sont très très féminines, et qui jouent beaucoup avec ça, espérant avoir des faveurs. Alors, attention, pas d'ordre sexuel, mais par rapport au courrier, par rapport aux sorties, etc. Mais moi, j'ai toujours trouvé les agents de détention que j'ai connus extrêmement professionnels.
Au hasard de nos recherches sur ce sujet, après notre entretien avec Marina, nous sommes tombés sur plusieurs articles parus dans la presse romande en juillet 2021 et ayant pour sujet « Le chef de cuisine de la prison de la Tuilière accusé de harcèlement sexuel ». Marina a été incarcérée en 2016, avant les mouvements MeToo, avant la libération de la parole, avant une forme de soutien, notamment en leur disant « je te crois », apportée aux victimes. Moi, ça m'étonne pas trop ce genre de truc. Les rapports de pouvoir, les mecs qui profitent des femmes en situation de vulnérabilité...
Oui, mais le jugement du tribunal correctionnel de la Côte a conclu qu'il n'y avait pas eu d'infraction pénale, même si une faute professionnelle avait été commise par le chef de cuisine. Les deux plaignantes, deux détenues brésiliennes aujourd'hui libérées et retournées dans leur pays, étaient consentantes au moment des faits et n'ont subi ni menaces, ni pression, et n'ont pas bénéficié de traitement de faveur lorsqu'elles étaient incarcérées.
J'ai de la peine à imaginer qu'il puisse exister des relations affectives ou sexuelles saines en prison. Des relations horizontales, sans abus. Ça me dépasse. Je me demande même si les histoires d'amour, les vraies, peuvent exister.
Il y avait pas mal de femmes homosexuelles ou alors qu'ils le sont devenues en cours de route, mais il y a quand même pas mal de mixité par rapport à ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu observer. Et surtout parmi les longues peines, il y a à un moment donné une carence affective qui fait qu'il y a des gestes qui finissent par venir. J'ai pas observé crûment parlant, de relations sexuelles, mais des gestes de tendresse, d'affection et pour finir des affinités qui se créent. Et je pense que pour finir, les femmes qui vivent ce genre d'évolution dans cette recherche affective finissent par apprivoiser en fait un petit peu cet état de fait. Tout à coup, il y a une espèce d'ouverture d'esprit et moi, je trouvais ça plutôt rassurant de pouvoir se dire que, après tout, qu'est-ce que ça peut faire si quelqu'un est en manque d'affection, pourquoi pas. Mais il y a des gens pour qui c'est compliqué de pas avoir de relations sexuelles déjà. Une des co-détenues qui n'était pas dans mon secteur, mais qui travaillait avec moi aux ateliers, elle, ça faisait 3 ans qu'elle était là. Elle en avait pour 5 ans, mais elle allait après avoir un régime de semi-liberté pour rechercher du travail. Elle me confiait que c'était difficile parfois pour elle d'avoir aucune relation sexuelle, d'autant plus que pendant les sorties, on n'a pas le droit de fréquenter des gens qui ont un casier judiciaire et son copain de cœur avait un casier judiciaire, donc elle ne pouvait même pas avoir de relation sexuelle pendant ses sorties.
Kat, toi qui as travaillé dans une prison pour hommes, tu crois que c'est pareil pour les mecs, cette histoire de tendresse ?
Bonne question. Je pense que les mecs, ils cachent beaucoup de choses en public. Mais j'ai pu voir des rapprochements, c'est sûr. Il y a toujours des affinités qui se créent. Mais après, si ça va jusqu'à de vraies romances, je sais pas. En tout cas, je sais que pas mal de mecs en prison font le choix de l'homosexualité. Tu sais, quand t'as pas vraiment le choix.
Quand on va en prison, c'est qu'à un moment donné, on a quand même déconné. À tort ou à raison, moi je suis pas contre le fait d'aller contre la loi, mais par contre il faut être conscient des conséquences et si on se retrouve en prison, c'est qu'on a franchi les bornes des limites. Pour celles qui vont en prison ou ceux Essayez de vous poser les bonnes questions. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que, en fait, se lamenter sur son sort, se plaindre, d'abord, ça mène nulle part, ça rend aigri, ça rend même un peu con. Se poser les bonnes questions, c'est simplement faire la recherche du sens. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement.
J'ai tout de même l'impression que Marina a eu de la chance dans son malheur. Elle a l'air d'avoir assez bien vécu sa détention. Elle a écopé d'une peine relativement courte. Elle parle français, elle est blanche, elle a un bon niveau d'éducation, elle comprend le système, elle a du soutien à l'extérieur et surtout, comme elle nous l'a dit, elle ose aussi en demander à l'intérieur. J'ai même le sentiment qu'elle a réussi à trouver une forme de rédemption, même si elle est assez critique envers la prison.
On parle de prison qui réinsère, moi je n'ai rien vu de ça, rien. Si ce n'est les ateliers où on reste actif et tout, mais ça ne nous sert à rien une fois à l'extérieur. Parce que de toute façon, c'est reconnu par rien ni personne. Enfermer les gens sans les accompagner d'une recherche de sens, ça sert à rien.
La recherche de sens, c'est ce qui habite notre invité. Le sens de ses actes, le sens de sa vie. De notre côté, Kat et moi, on s'est demandé si l'enfermement avait encore du sens. Sur Internet, nous avons trouvé des alternatives, des modèles philosophiques qui remettent la victime au centre. Justice réparatrice. Justice restauratrice, justice transformative, des modèles qui s'éloignent de la norme pénale et répressive, qui permettent à la victime de détailler les conséquences néfastes d'un crime sur leur vie, mais aussi des modèles où on étudie les fautes sous un angle plus global, on remonte à la source de la violence, de la haine, du dérapage. En 2021, ces types de justice n'ont pas encore réorienté fondamentalement les perspectives du système pénal dont souffrent toujours majoritairement les femmes.
En Suisse, les femmes représentent moins de 6% de la population carcérale. Mais pour des raisons de coût, elles font les frais de la surpopulation dans les prisons, où les places qui leur sont dévolues manquent, alors qu'elles nécessitent des structures carcérales adaptées à leurs besoins spécifiques, notamment la maternité ou du personnel féminin. En Suisse, les deux seules prisons spécialement dédiées aux femmes sont la Tuilière à Lausanne et Hindelbank à Berne. Il y en avait une à Genève, Riom Park, qui a fermé ses portes en 2014 car jugée trop onéreuse.
Mais alors ça veut dire que s'il n'y a plus de place, tu peux te retrouver enfermée à Berne.
Ouais.
Et les visites de ta famille, de tes enfants?
C'est plus compliqué, plus cher aussi pour se déplacer. Tu sais, les détenues genevoises qui sont en préventive à Chandelon subissent un régime différent que celui prévu par la loi. Par exemple, elles sont cloîtrées au troisième étage dans un grand bâtiment rempli d'hommes. Elles ont moins de possibilités de mouvement, moins d'activités, elles ne peuvent pas aller travailler dans les ateliers car ils ne sont pas mixtes. Elles ne peuvent donc pas gagner de l'argent et dépendent entièrement de l'aide extérieure. Une fois de plus, elles se retrouvent dans une situation de perte d'autonomie et de dépendance.
On empêche les femmes d'avoir accès au même type de travail que les hommes, on restreint leur liberté de mouvement, un peu comme dans la vie à l'extérieur en fin de compte.
Bah ouais, dedans, dehors, c'est pareil. Aujourd'hui, Marina est apaisée. Elle vit dans le Jura où elle travaille à l'écriture de son second ouvrage, Au-delà du ras-le-bol. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur notre invitée, nous vous recommandons la lecture de Dedans dehors, réflexion d'une femme en cage, que vous trouverez en librairie ou sur internet.
Pour aller plus loin, nous vous conseillons également la lecture de L'université de Rebibbia, de Goliarda Sapienza, le récit d'une écrivaine incarcérée à Rome dans la plus grande prison pour femmes d'Italie. Vous pouvez aussi vous plonger dans la lecture de « Pour elles toutes, femmes contre la prison » de Gwenola Ricordo, chercheuse et enseignante en justice criminelle et militante pour l'abolition du système pénal. Si vous êtes plutôt branché podcast, nous vous conseillons « Détenus », une série produite par Insider Podcast sous la direction d'Émilie Denêtre et d'Adèle Imbert, ou alors l'épisode 89 de « La poudre » de Lorraine Bastide, une justice féministe avec Gwenola Ricordo.
À bientôt.
Gonzanzonz a été écrit, réalisé et monté par
Kat Berger
et Aude Bourrier.
Une production Caprod.
Radio Bascule.